Bonjour et bienvenue dans la quatrième dimension. Oh, Amérindien, portrait, lutte et reconnaissance. Voici la deuxième série de portraits proposés par Courrier International en 2007. Afin que les Amérindiens ne soient pas oubliés, rendons hommage à quelques grandes figures qui luttent pour le respect des droits des Indiens. Aux États-Unis, Winona La Duke, femme politique et écrivaine, 48 ans. Winona La Duke est particulièrement connue pour s'être présentée par deux fois, en 1996 et en 2000, à la vice-présidence des États-Unis en tant que colistière du candidat écologiste Ralph Nader. Ce n'était là que la conclusion logique d'une carrière militante qui a débuté très tôt. Née en 1959 à Los Angeles d'un père Anishinaabe, très militant et acteur à ses heures, et d'une mère professeur d'art, Winona La Duke s'est distinguée à l'âge de 18 ans en prononçant un discours en faveur de la cause indienne devant les Nations Unies. Diplômée de l'université Harvard en 1982, elle décide de partir vivre dans la réserve de White Earth, dans le Minnesota,
d'où est originaire
une partie de sa famille, et fonde très rapidement une association destinée à permettre aux Indiens Anishinaabe de récupérer les terres qui leur avaient été attribuées en vertu d'un traité fédéral de 1867. Elle a également créé la fondation Honor the Earth, Honorons la Terre, afin de contribuer à la sauvegarde écologique des réserves amérindiennes et a écrit plusieurs livres. Parmi ceux-ci, on peut citer son premier roman, The Last Standing Woman, publié en 1997, et qui retrace l'histoire de la communauté Anishinaabe de la réserve de White Earth sur 7 générations. Nous ne voulons pas une plus grosse part du gâteau. Nous voulons un gâteau différent. Oh. Et aujourd'hui, qu'en est-il en 2014? Au Mexique, le sous-commandant Marcos, leader zapatiste, 50 ans. Depuis la dernière campagne à l'élection présidentielle au Mexique en 2006, il se fait plus volontiers appeler « délégué zéro ». Mais le sous-commandant Marcos, de son vrai nom, Rafael Guillén, information jamais confirmée par l'intéressé, n'a pas pour autant renoncé à son passe-montagne noire, ni à sa pipe, lorsqu'il apparaît, de plus en plus rarement, en public. Il serait né en 1957, dans une famille suffisamment aisée, pour qu'il puisse faire des études. Le sous-commandant Marcos reste aujourd'hui l'un des principaux dirigeants et porte-parole de l'armée zapatiste de libération nationale, E-Z-L-N, à laquelle il appartient depuis sa création en 1984. Le soulèvement zapatiste a fait connaître au monde entier la triste condition des Indiens et paysans du Chiapas. Pendant les années qui suivirent, Marcos n'a cessé de médiatiser le mouvement indien. En 2001, il entama à travers le Mexique une longue marche pacifique, le Zapatour, qui bénéficia de larges échos dans les milieux intellectuels de gauche européens. Depuis lors, le sous-commandant a adopté un profil plutôt bas, optant pour un discours plus altermondialiste qu'indianiste et marxiste. Rares sont les nouveaux dirigeants de gauche latino-américains, en dehors d'Evo Morales, qui trouvent grâce à ses yeux. Dans ses rares interventions récentes, il fait d'ailleurs à peine allusion à la cause indienne. Interviewé par The Guardian, il vient d'annoncer, outre la publication d'un livre qui s'intitule « Pas du tout politique », un soulèvement civil et armé. Pour qu'on nous voie, nous nous sommes masqués le visage. Pour qu'on nous donne un nom, nous avons plongé dans l'anonymat. Pour avoir un avenir, nous avons mis notre présent en jeu. Et pour vivre, nous sommes morts. Ho-ho ! Et aujourd'hui, qu'en est-il en 2014 ? Au Guatemala, Rigoberta Menchú Tum, militante, prix Nobel de la paix, 48 ans. Rigoberta, née en 1959 à Chimel, dans le département de Quiché, nom de l'ethnie maya dont elle est originaire. Elle commence très jeune à travailler comme ouvrière agricole, puis comme employée de maison. Son père, Vicente, qui lutte pour les droits des Indiens, fonde le comité d'unité paysanne auquel elle adhère à 19 ans. Hostile à la junte militaire, ses parents sont torturés et assassinés. Rigoberta fuit au Mexique, où elle organise une résistance pacifique pour faire condamner les responsables du génocide des Indiens du Guatemala. En 1983 sort sa biographie, procurant à sa cause une reconnaissance internationale. Celle-ci permet à Rigoberta de retourner au Guatemala, où elle participe à la Déclaration des droits des peuples autochtones. En 1992, elle est la plus jeune lauréate du prix Nobel de la paix. Suivront de nombreux autres prix. Cette ambassadrice de la paix crée la fondation Vicente Menchú et l'initiative indigène pour la paix. Des accords entre les guérilleros et le gouvernement aboutiront en 1996,
après 36 ans de conflit.
En 1999, Rigoberta Menchú saisit sans résultat la justice espagnole pour faire juger les militaires. En 2007, elle crée le WINAC, un parti regroupant plusieurs mouvements mayas. Si elle remporte les élections en septembre 2007, elle sera la première amérindienne et la cinquième femme présidente en Amérique. Je rêve d'un Guatemala pour tous, où ni la langue, ni le costume, et ni la position sociale ne soient un motif d'exclusion. Aho, et aujourd'hui, qu'en est-il en 2014 ? Aux États-Unis, Ben Nighthorse Campbell, ancien sénateur, 74 ans. Né en Californie en 1933. D'un père Cheyenne et d'une mère portugaise. Ben Nighthorse Campbell est l'un des rares Amérindiens à avoir siégé à la Chambre des représentants et au Sénat américain. Mais ce ne sont pas là ses seuls faits d'armes. Il a également été champion de judo dans ses jeunes années et est aussi un créateur de bijoux reconnus. Activité artistique qu'il poursuit aujourd'hui. Dans le cours de sa carrière politique, Ben Nighthorse Campbell s'est distingué par son anticonformisme. Il siège d'abord de 1987 à 1992 à la Chambre des représentants de Washington, avant de se faire élire en novembre 1992 sénateur démocrate du Colorado. En 1995, cependant, il rend sa carte du Parti démocrate et devient membre du Parti républicain. Réélu en 1998, il est le premier Amérindien de toute l'histoire des États-Unis à devenir président de la Commission des affaires indiennes du Sénat. Il en profite pour initier et faire voter un très grand nombre de mesures en faveur des Indiens. Parmi les lois les plus importantes de toute sa carrière, on peut citer celle portant sur la création du Musée national des Indiens d'Amérique à Washington. Il a quitté le Congrès en janvier 2005, au terme de son second mandat de sénateur du Colorado. Le meilleur moment de toute ma carrière politique, lorsque je me suis exprimé devant le Sénat, en tenue traditionnelle, le jour de l'inauguration du Musée national des Indiens d'Amérique. Aho ! Et aujourd'hui, qu'en est-il en 2014 ? Toujours aux États-Unis, N. Scott Momadei, poète et peintre. 73 ans. Navarre Scott Momadei, considéré depuis les années 60 comme le plus grand écrivain amérindien, a été marqué par les traditions Kiowa de sa famille paternelle, ainsi que par les cultures Navajo, Apache et Pueblo du sud-ouest des États-Unis. À la fois poète, romancier, peintre et graveur. Il a reçu en 1969 le prix Pulitzer pour son livre « La maison de l'aube », un roman qui allait participer à la naissance d'une littérature autochtone. Il appartient à la mouvance des années 70, mais de façon sans doute plus subtile que les activistes du pouvoir rouge. Il a notamment déclaré un jour « Je pense parfois que l'Américain blanc d'aujourd'hui est plus privé culturellement que l'Indien. » Nombre de ses livres ont été traduits en français, parmi lesquels « L'enfant des temps oubliés »,« Les noms »,« L'homme fait de mots » et « Le chemin » de la montagne de pluie. Il a également écrit des biographies de chefs tribaux à partir de récits traditionnellement transmis par voie orale. Diplômé de Stanford, N. Scott Momaday a enseigné la littérature à Berkeley, Université de Californie, puis dans plusieurs autres universités, dont Columbia et Princeton. Il a été nommé artiste de l'UNESCO pour la paix, pour son œuvre remarquable d'écrivain et de peintre, son action en faveur de la restauration et de la préservation du patrimoine amérindien
et de ses traditions et communautés culturelles.
À tous les jeunes, je dis, parlez avec vos anciens. Essayez de comprendre le mieux possible votre héritage et considérez-vous comme des individus. Définissez-vous et ne laissez pas les autres vous expliquer qui vous êtes.
Ha-ho.
Toujours aux États-Unis, Léonard Peltier, militant emprisonné, 63 ans. Depuis sa condamnation en 1977 à deux peines de prison à perpétuité pour le meurtre de deux agents du FBI dans la réserve de Pine Ridge, dans le Dakota du Sud, Léonard Peltier est devenu le prisonnier indien le plus célèbre des États-Unis. Né en 1944 dans la réserve Chippewa de Turtle Mountain, dans le Dakota du Nord, il commence à militer à la fin des années 1960 au sein de l'American Indian Movement. À ce titre, il participe à de nombreuses actions d'éclat, comme la piste des traités violés et l'occupation du Bureau des Affaires indiennes de Washington en 1972. L'année suivante, il est également présent lors de l'occupation du village de Wooden Knee. Deux ans plus tard, c'est dans le même lieu qu'il est accusé d'avoir ouvert le feu et tué deux agents du FBI. Jugé coupable de ses crimes, il n'a jamais cessé de clamer son innocence. Malgré les nombreux appels et recours engagés devant la justice américaine, et bien que Bill Clinton ait déclaré en 1996 « Je n'oublierai pas Léonard », il n'a pas eu droit à la moindre clémence. Devenu peintre et poète derrière les barreaux, il milite également depuis sa cellule pour l'éducation des jeunes générations amérindiennes. Toujours incarcéré, aujourd'hui sous le matricule 89-637-132, il est considéré comme un prisonnier politique par de nombreuses organisations de défense des droits de l'homme, dont Amnesty International, qui continue d'exiger sa libération. Ma vie est une prière pour mon peuple. Ha-ho. Et aujourd'hui, qu'en est-il en 2014? En Colombie, Jesús Piñaquiu, sénateur, 43 ans. Jesús Piñaquiu est sénateur depuis 1998. Ce représentant de l'ASI, Alliance sociale indigène colombienne, n'est jamais passé inaperçu depuis son entrée en politique. Et pas seulement parce qu'il est photogénique, quand même à le faire remarquer la plupart des médias. Ce philosophe d'origine Paez, une ethnie d'environ 20 000 membres, né en 1964 à Tierra Dentro, dans la région du Cauca, dans le sud de la Colombie, a d'abord été président du CRIC, le Conseil régional indigène du Cauca. Il est devenu peu à peu représentant incontournable des Indiens colombiens sur la scène politique. En 1998, lors de la campagne électorale pour la présidence, il appela à voter pour le candidat libéral Horacio Serpa. Or, les mouvements indiens, ayant pour leur part appelé à s'abstenir lors de cette élection, ils décidèrent de le punir pour sa désobéissance. En vertu de la justice coutumière à laquelle il se plia, le sénateur Jésus Pignacchio fut condamné à être purifié dans un lac glacé des Andes colombiennes et à passer une nuit de méditation solitaire à la veille de son entrée en fonction au Congrès. Au Sénat, il s'est attaché depuis à défendre les projets de loi défendant les minorités indiennes ou noires du pays, la parité et les droits fondamentaux des citoyens. Souvenez-vous que l'espérance de vie d'un Indien Paez est de 38 ans, alors qu'elle est de 65 ans pour l'ensemble de la population colombienne. Aho. Et aujourd'hui, qu'en est-il en 2014 ? Aux États-Unis, Floyd Red Crow Westerman, chanteur et militant, 71 ans. Comme de nombreux Indiens célèbres, il a toujours eu des professions multiples. Né dans la nation Dakota, Siston, Wahpeton, Floyd Red Crow Westerman a rencontré très jeune, au pensionnat, Denise Banks, qui allait fonder plus tard l'American Indian Movement, l'AIM, dans les années 1960. Musicien, il se mit à chanter la vie quotidienne de la réserve. Et son premier album, Custer Died for Your Sins, Custer est mort pour vos péchés, devint très vite l'accompagnement musical habituel des meetings de l'AIM. Il est aussi particulièrement connu pour les nombreux films dans lesquels il a joué, dont « Danse avec les loups » de Kevin Costner en 1990 et « The Doors » d'Oliver Stone en 1991. Au début des années 90, Red Crow a par ailleurs réalisé une tournée mondiale avec le chanteur Sting afin d'amasser des fonds pour stopper les coupes à blanc dans la forêt amazonienne. En tant que leader du mouvement indien, il s'est activement impliqué dans le respect des droits des peuples indiens. Il fait actuellement fonction d'ambassadeur de bonne volonté pour l'International Indian Treaty Council, une ONG qui est une branche diplomatique de l'AIM et a un statut de consultant à l'ONU. Nous avons un mode de vie à défendre. Tandis que l'Amérique cherche le profit, notre terre est détruite, et ce, de plus en plus vite. Je pense que nous avons des valeurs vitales à enseigner à ce pays. Et je crois que cette lutte spirituelle sera victorieuse. Aho. Et aujourd'hui, qu'en est-il en 2014? C'était la quatrième dimension, amérindien, portrait, lutte et reconnaissance. À bientôt dans la quatrième dimension.
Oh.